J'ai besoin de plus de mystère.
C'est l'heure de nos filters.
Plus mystérieux encore.
J'aimais la figure mystérieux. Essayez de donner mystère mystérieux.
Bonjour à vous et bienvenue dans No Filter Podcast, le podcast dédié à la photographie. Un très grand merci de votre patience pour cet épisode 32 que j'ai dû réenregistrer suite à des problèmes techniques. Aujourd'hui, nous traitons un sujet qui est le print. L'idée est de vraiment aborder avec vous les quelques points, on va dire les 4-5 points qui vont vous permettre d'obtenir des résultats professionnels pour ce qui relève de l'impression de vos clichés. Vous donner les, entre guillemets, les clés de lecture, vous donner les choses à savoir pour que vous obteniez des photos les plus qualitatives à l'impression par rapport à ce que vous faites et par rapport à ce que vous avez dans votre ordinateur. En rappel, si sur certains points vous avez la sensation que je passe un petit peu trop vite ou s'il y a certains points que vous ne comprenez pas, j'en parle souvent dans le podcast, je vous invite à retourner peut-être écouter le troisième épisode du podcast qui s'appelle Tabula Rasa et qui est un cours de photographie, qui est une formation si vous préférez, sur le triangle d'exposition, mais aussi sur un sujet qu'on va aborder dans un instant qui est la typologie d'image print, la typologie d'image web avec la définition, la résolution, la synthèse soustractive, la synthèse additive. On va diviser cet épisode, si vous voulez bien, en deux petites parties. On va vraiment attaquer les bases, ensuite on va attaquer les technos qui peuvent vous être utiles, et peut-être une ou deux petites questions que j'ai pu gratter sur le papier à côté pour vous donner des tips, tout simplement. L'idée est vraiment de faire un épisode qui soit sub 50 minutes, peut-être même sub 35 minutes. On va voir ce que ça donne. Le premier point peut-être le plus important à bien maîtriser et bien comprendre quand on veut imprimer ses photographies, c'est connaître le langage technique et savoir de quoi on parle. On va replacer très rapidement, très simplement, deux choses que sont la définition et la résolution d'une image. Il y a beaucoup de personnes qui confondent ces deux valeurs. On va excuser tout de suite nos amis vendeurs de la FNAC hein, qui ne vont pas hésiter à nous dire qu'un téléviseur est haute résolution, et on va voir dans un instant pourquoi ce n'est pas possible. On leur en veut pas trop parce qu'ils lisent des cartons où très souvent les notices sont écrites en anglais, et c'est vrai qu'en anglais, définition et résolution ne veulent pas dire la même chose qu'en français, c'est justement l'inverse de ce qu'on va voir. La définition, c'est ça correspond à sa dimension exprimée en pixels. Le pixel est la plus petite composante d'une image numérique. Si on grossit suffisamment une image, normalement, on peut voir ce qui la compose. Plus une image comporte de pixels, plus elle est lourde en termes de poids. Je vous prends un exemple. Un appareil photo qui vous sortirait une photo avec 6000 pixels de long par 4000 pixels de hauteur, ça nous fait 6 x 4, 24, 1000 par 1000, millions. À ce moment-là, on aura eu un appareil photo qui est capable de sortir du 24 millions de pixels. On va parler d'une définition de 24 millions de pixels dans ce cas-là. Donc on comprend tout de suite que la définition, en gros, c'est, si vous voulez, tout simplement ce qui va faire votre image. Plus vous avez de pixels, plus vous allez avoir une image lourde. La résolution. Ah, la résolution, c'est quelque chose que très souvent, beaucoup de personnes ont un petit peu de mal à cerner ou cernent à l'envers, on va dire. La résolution, c'est simplement une donnée chiffrée qui accompagne un fichier image, comme l'heure, la date, les informations EXIF de prise de vue, si vous voulez. La résolution d'une image n'a aucun impact sur le poids informatique d'un fichier. Pour approfondir un petit peu la chose, on va passer très rapidement sur ça. Il y a quatre grandes valeurs de résolution qu'il faut connaître, 72 dpi, puisque la résolution s'exprime notamment en dpi ou en ppp, elle peut s'exprimer d'autres manières, mais on peut l'exprimer en dpi, et c'est la valeur la plus usitée. 72 dpi, 150 dpi, 240 dpi, 300 dpi. 72 dpi, c'est, entre guillemets, tout ce qui va être écran rétroéclairé, que ce soit votre téléphone, que ce soit votre ordinateur, un panneau d'affichage sort en 72 DPI. 150 DPI, ce sont les petites imprimantes laser qu'on peut avoir à droite, à gauche chez nous, des Brother, des HP, des choses comme ça, qui vont avoir une qualité d'impression qui ne sera pas forcément folle, mais qui vont nous permettre de faire le job. 240 DPI, alors 240 DPI, c'est peut-être la plus fourbe, c'est-à-dire que 240 DPI, en fait, c'est la capacité de l'œil humain. L'œil humain est capable, l'œil humain est limité à 240 DPI. Il n'est pas capable de voir au-delà de 240 DPI. C'est pour ça qu'il est admis qu'une résolution de 250 DPI est suffisante pour une impression de bonne qualité. De manière générale, tous les imprimeurs sérieux vont vous proposer de travailler en 300 DPI. On récapitule juste un instant. La définition, c'est vraiment le nombre de pixels qui va composer mon image. La résolution, c'est la valeur de trame, entre guillemets, de l'image, comme si on parlait d'un tissu, ça va être la trame sur une zone spécifique, donc dots per inch, le nombre de points par pouce. La résolution, ça va être la trame pour un carré qui fait 2,54 cm de côté, à savoir 1 pouce. Une fois qu'on a vu ça, en fait, une fois qu'on maîtrise cela, on peut passer à un point qui est assez... On va passer rapidement sur ça. On va parler du mode de chromie. Un écran, c'est en rouge, vert, bleu. C'est ce qu'on appelle la synthèse additive. C'est-à-dire que du rouge, du vert, du bleu, quand ça s'additionne, ça donne du blanc. Oui, quand vous regardez votre écran, quand il n'est pas allumé, il est tout noir. Le cyan, le magenta, le jaune, ça donne du noir. Et c'est ce qu'on retrouve dans le CMJN. Cyan, magenta, jaune, noir. Attendez, je comprends pas. Il vient de dire qu'il y avait du noir et il répète noir. Oui, autant le RVB, lui, nous donne du blanc, autant le cyan, magenta et le jaune nous donnent du noir. Mais pourquoi on a une cartouche de noir à côté? Tout simplement parce que le blanc et le noir ne sont pas des couleurs, ce sont des tonalités, et qu'il y a une différence entre un noir chimiquement parfait et un noir composite. Ce qu'on appelle un noir composite, c'est l'addition de cyan, de magenta, de jaune. Pour faire très simple, tout ce qui est rétroéclairé, tout ce qui va être écran, va être effectivement nativement sur du RVB. Tout ce qui va être imprimé va être sur du cyan, du magenta, du jaune et du noir. Et on appelle ces deux technologies, enfin on appelle ces deux synthèses, la synthèse additive, la synthèse soustractive. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si, c'est là que je vais commencer à vous ouvrir un petit peu le cerveau, mais je vais aller rapidement sur ça, même si vous regardez... dans Photoshop ou ailleurs, votre courbe de RVB, cette courbe n'existe que parce qu'en face, il y a du cyan, du magenta et du jaune. Le rouge fait opposition au cyan, le vert fait opposition au magenta, et le bleu fait opposition au jaune. Si vous avez trop de bleu dans une image, vous allez rajouter un petit peu de jaune pour contrer et essayer de revenir à l'équilibre. Voilà. On ne va pas aller plus loin que ça sur ces parties-là. Il y a énormément d'articles que je pourrais vous mettre en ligne si vous avez besoin. Bon, pour un petit rappel rapide, le RVB, le cyan, magenta, jaune, noir, c'est à peu près ce qu'on voit en 6e sur la théorie des couleurs en art plastique. C'est la roue chromatique, c'est la roue des couleurs, si c'est plus simple pour vous. Maintenant, on va passer à un sujet qui est peut-être le plus important pour bien comprendre effectivement comment on veut, quand on veut imprimer et quand on veut obtenir une image qualitative. Sur ce sujet-là, c'est très simple. Vous avez deux manières de faire. Soit vous pouvez vous référer directement à l'article que je vais mettre dans le billet, soit vous pouvez noter tout simplement ce petit calcul sur un papier si vous avez envie de le faire vous-même et si ça peut vous, entre guillemets, vous chatouiller le cerveau de faire un petit peu des mathématiques. Le point qu'on va aborder ici est le suivant. Savoir être en mesure de déterminer à quoi correspond un pixel une taille en centimètres ou à quoi correspond en centimètres une taille en pixels. Si vous voulez savoir ce que ça donne 2000 pixels en termes de centimètres en 300 dpi, vous prenez votre calcul suivant, c'est-à-dire 2000 divisé par 300, et ce résultat-là, vous allez le multiplier par 2,54, donc c'est-à-dire la valeur d'un point, et ça va vous donner une valeur en centimètres. Vous allez prendre votre autre valeur, puisqu'une image c'est composée d'une hauteur et d'une largeur, vous allez faire le même calcul, et vous aurez votre deuxième valeur. Au contraire, si on veut savoir à quoi correspond, entre guillemets, une taille d'impression en pixels. Là aussi, c'est très très simple. Si vous vous dites, oh bah tiens, moi j'ai envie d'imprimer un 40-60, et j'aimerais savoir à quoi ça correspond, de combien de pixels j'ai besoin pour pouvoir imprimer mon image. Donc vous allez prendre tout simplement votre nombre de centimètres, vous allez le multiplier par votre valeur de DPI, et vous allez diviser ça, par 2,54. Je vous donne un exemple. Si je veux savoir ce que ça me donne que 40 cm, c'est très simple. Je vais prendre 40 par 300. Et donc je vais faire une multiplication. Et ce résultat-là, je vais le diviser par 2,54. Et on va voir que ça va me donner ma valeur, tout simplement, en pixels. Du coup, je sais qu'un 40-60 en 300 dpi, ça me demande d'avoir un fichier qui va faire 4724 pixels par 7087 pixels. L'idée ici, c'est de vous préparer au mieux. Trop souvent, on voit des personnes, et c'est normal, on fait tous des erreurs, on commence tous à un endroit, on voit des personnes qui vont arriver chez un imprimeur sans savoir... Alors, quand je parle d'un imprimeur, soyons sérieux. On parle de personnes qui vont faire de vraies impressions. On ne parle pas de bornes d'impression à la FNAC ou dans des magasins grand public. On parle d'avoir un imprimeur qui va vous faire un tirage sur une impression avec un traceur sur un joli papier, que ce soit du Anmuleux, du Canson ou autre. Et là, c'est là où vous avez besoin de vous assurer que votre fichier, il est parfaitement maîtrisé. Je ne parle pas techniquement dans son développement. Ça, c'est tout ce que vous faites avant. Quand je dis parfaitement maîtrisé, je parle de sa constitution, sa composition d'un point de vue purement technique, de manière à vous assurer que votre imprimeur, vous lui amenez suffisamment d'informations de manière à ce que la personne puisse vous livrer la photographie que vous attendez. Il est important de bien comprendre pourquoi on vient travailler en 300 dpi et pas en 72 dpi. Je vous invite à aller regarder le lien que je vais vous donner. Il y a un petit schéma qui est très simple et qui vous montre plusieurs résolutions et formats d'impression, qui vous montre ce que c'est que 8 dpi, 16 dpi, 32 dpi, 64 dpi, 128 dpi. Et vous allez vous rendre compte à quel point votre image, elle est tout de suite beaucoup plus nette et beaucoup plus définie et qu'elle est forcément beaucoup plus lisible. Pour un imprimeur, on a vu en plus, on vient d'en discuter, on pourrait se dire, oh là là, moi je vais travailler en 254 dpi, je vais vous avouer que tous les imprimeurs avec lesquels je travaille ont l'habitude de travailler en 300 dpi, et bon, sinon ils peuvent changer votre fichier, c'est pas le problème, mais de base, prenez plutôt l'habitude de travailler en 300 dpi. Comme on vient de le voir, nous avons deux manières d'appréhender la question. Soit je viens chercher un nombre en centimètres, parce que je me dis que j'ai mon nombre de pixels et je veux savoir ce que ça me donne en centimètres pour un fichier. Soit au contraire, je connais la taille du support qui m'intéresse et je veux savoir à quoi ça va me correspondre en pixels par rapport à la résolution que je vais choisir, très souvent le 300 dpi. Je vous l'avais dit, c'est un épisode qui va être assez court parce qu'au final, il n'y a pas grand-chose à connaître, à comprendre. Alors après, à maîtriser, ça peut demander peut-être un petit peu plus de temps, mais ce que vous devez savoir, c'est effectivement votre définition, votre résolution, comprendre ça, et on va pouvoir passer assez rapidement sur la suite. Alors la suite, qu'est-ce que ça va être ? La suite, c'est tout simplement vous dire que peut-être quand vous voulez donner un fichier à votre imprimeur, c'est peut-être mieux de lui apporter un fichier TIFF, qui est un fichier qui n'est pas compressé par rapport à un fichier JPEG, qui est un fichier compressé et qui, en fonction des dégradés, des choses que vous pouvez avoir dans votre image, de la composition de votre image, peut vous limiter sur la finesse, la profondeur des couleurs que vous pouvez avoir. Petit rappel, très rapide aussi sur ça, le JPEG, ce n'est pas un format de travail. Le JPEG, c'est un format de diffusion. Là, vous allez me dire, mais tu fais chier, pourquoi tu dis ça ? Mon appareil photo, il fait du JPEG et il fait du RAW. Oui, bien sûr. Le JPEG, c'est un fichier qui est déjà interprété. Le RAW, c'est un fichier qui n'est pas interprété. Quand vous travaillez avec Lightroom ou Capture One, ces logiciels font un travail de dérotisation qui est venir analyser le fichier qu'on leur a donné de manière à pouvoir l'interpréter du mieux possible. Le JPEG que vous sort votre appareil photo, c'est un fichier compressé parce que c'est la nature même du JPEG d'être un fichier compressé, et surtout c'est une interprétation entre guillemets par rapport au moteur graphique avec de très grands guillemets qui est présent dans votre appareil photo. À mon sens, le fichier qu'on doit amener à un imprimeur Si on peut, si on en a les moyens, si on en a les moyens techniques, c'est un fichier TIFF. C'est un fichier qui est certes plus lourd, mais qui ne comporte pas de compression et qui va vous permettre d'être certain d'avoir une très grande qualité par rapport à ce que vous avez pu sortir et travailler sur votre ordinateur. On va revenir désormais, justement, sur le travail fait, effectué sur votre ordinateur. Peut-être que je vais vous parler de choses qui vont vous sembler complètement abscons, mais votre écran d'ordinateur, pour vous assurer que vous avez une qualité, une grande fidélité à l'impression, vous devez venir utiliser une sonde de calibration. Vous êtes en train de me dire, mais où est-ce qu'il m'emmène ? On va voir ça très simplement, je vais vous expliquer en deux secondes ce que ça veut dire. Votre écran, quand vous l'achetez, quand vous le recevez, il a déjà eu un réglage. C'est-à-dire que on ne vous vend pas un écran qui ne fonctionne pas. On a vérifié le réglage d'usine, c'est-à-dire que tout fonctionne, que tous les menus fonctionnent, que votre écran soit capable d'afficher. Donc on va dire qu'il va avoir peut-être... il va être réglé à 50% sur l'humidité, 50% sur le contraste, tel ou tel type de couleur, de dynamique, de choses comme ça. C'est ce qu'on appelle le réglage d'usine. À la réception, quand vous décidez de l'utiliser, de travailler avec, vous allez faire des petites modifications, peut-être rajouter de la lumière, rajouter de la couleur, naturellement en fonction de votre environnement de travail. Et ça, c'est ce qu'on appelle un réglage de confort. Et en fait, c'est là où intervient la calibration. Vous savez, on a déjà parlé dans le podcast, on sait que ça existe en photographie, ce qu'on appelle les températures. Les températures de lumière, on a ou de couleur, on a des lumières qui sont chaudes, on a des lumières qui sont froides, on sait qu'il y a une différence entre une lumière au tungstène, une lumière au néon, une lumière au flash, la lumière solaire. Tout simplement, votre sonde de calibration, en gros, il faut imaginer une sorte de petit souris, à la place du laser, on a une petite caméra, on va venir la poser sur son écran, installer un logiciel, on va venir se remettre avant... dans le mode réglage d'usine de votre écran, et on va dire, grâce à ce petit logiciel, moi ce qui m'intéresse, c'est obtenir telle fidélité par rapport à une valeur en Kelvin, généralement autour de 5800 Kelvin ou 6200, voire 6500 Kelvin. Et en fait, ce travail-là, c'est simple, votre petite sonde sur votre ordinateur, sur votre écran, pardon, on va lui envoyer des flashs de couleurs, on va envoyer des aplats de lumière, des aplats de couleurs, pardon, plutôt que des flashs. Et par rapport à la cible que vous souhaitez atteindre, vous allez devoir dire tiens, là par contre, il faut que je baisse un petit peu la luminosité, ou il faut que je baisse un petit peu la saturation, il faut que je rajoute du vert, il faut que je rajoute du bleu. En gros, une sonde de calibration, pour faire plus simple, c'est un outil qui vous permet de vous assurer que les couleurs que vous avez à l'écran, elles sont le plus proches possible et les plus fidèles aux couleurs de la réalité. Qu'est-ce qui va définir cette réalité ? C'est ce qui est justement important, c'est savoir quelle cible de lumière, quelle cible de température de couleur, entre guillemets, vous allez vouloir obtenir. Je vous mettrai aussi sur ça un petit lien dans le billet, et vous allez voir que... Alors, ça fait un peu de lecture. Je suis désolé, c'est un épisode qui va c'est un épisode qui va être peut-être assez court à écouter, mais c'est un épisode qui... Si vous acceptez de jouer le jeu, va vous apprendre énormément. Vous allez avoir un petit peu de lecture. Vous allez avoir en tout et pour tout, peut-être 30-35 minutes de lecture, tout compris autour de ce que je vais vous apporter aujourd'hui dans cet épisode. Mais c'est quelque chose qui vous permettra de comprendre comment on travaille en impression et comment vous assurer que tout le beau travail, toute l'attention que vous pouvez prêter au développement de vos clichés dans Photoshop, dans Lightroom ou dans Capture One, quand vous voulez imprimer une photo, ce qui est quand même pour moi le summum de la photographie, le summum de l'acte photographique, et bien vous assurez que vous êtes dans les meilleures dispositions, vous êtes dans les meilleures conditions pour faire un bon boulot et avoir exactement ce que vous aviez sur votre écran, l'avoir sur du papier. Donc une sonde de calibration, c'est très important et c'est quelque chose qui est un vrai game changer, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire monter entre guillemets de niveau dans votre photographie, puisque ça vous permet de vous assurer que vous avez les bonnes chromies, les bonnes couleurs pour venir travailler sereinement. Si vous avez la suite dans les idées, vous allez me dire, oui, donc là, on vient de voir la définition, la résolution, ok, on a parlé de la synthèse additive, de la synthèse soustractive, le print, c'est en synthèse... le print, c'est en synthèse soustractive. Après, c'est pas grave, si vous envoyez à votre imprimeur une photo que vous avez travaillée en synthèse additive, rouge, vert, bleu, lui, ça va lui prendre 10 secondes de passer dans Photoshop et de le passer sur Magenta, jaune, noir. c'est pas très très grave si vous ne pensez pas à le mettre en cyan, magenta, jaune, noir vous-même. Par contre, comme je vous le disais, si vous avez la suite dans les idées, vous allez me dire donc résolution, définition, ok, type d'image, ok, print, web, ok, la sonde, d'accord, très bien, je comprends ce que ça m'amène, mais la sonde aussi, elle se pose sur un certain type d'écran. Alors sur ça, on va aller très rapidement aussi, parce que je vais vous donner un petit peu de lecture. Sur ça, vous avez quatre grandes technologies qui viennent s'opposer. Vous avez les dalles TN, les dalles VA, les dalles OLED et les dalles IPS. En gros, pour faire très très simple, imaginez que vous êtes face à votre écran. Et ce que vont apporter certaines dalles par rapport aux autres, c'est tout simplement... pour faire vraiment très simple, pas rentrer dans la technique, c'est la fidélité de contraste et le fait que selon comment vous vous déplacez autour de votre écran, selon si vous êtes un petit peu, penché à gauche, penché à droite, selon votre positionnement, vous allez vous assurer d'avoir exactement la même chromie dans chaque angle. Très souvent sur des écrans, vous pouvez faire un test, hein, sur votre écran de travail, là où travailler votre photographie. Est-ce que si vous penchez à gauche, à droite, est-ce que si vous êtes un petit peu de trois quarts gauche, de trois quarts droite par rapport à votre écran, est-ce que les couleurs sont exactement les mêmes ? Les meilleures dalles pour venir travailler sont... Alors, quand je dis les meilleures dalles, là aussi, on ne s'excite pas les gens dans les commentaires. Les meilleures dalles pour venir travailler en termes de rapport qualité-prix, ce sont les dalles IPS. Ce sont celles qui vont vous permettre d'avoir tout simplement la plus grande... La plus grande qualité. Pourquoi je ne vous parle pas de l'OLED ? Parce que l'OLED, c'est certes très très bien, mais l'OLED, c'est surtout hors de prix, donc ça va vous permettre de travailler très bien, mais ce sera un petit peu cher. Alors, on se rend compte au fur et à mesure que, bah oui, bien sûr, un bon fichier, une bonne impression, c'est naturellement respecter la nomenclature qui est nécessaire à la bonne impression d'un document quand on parle de photographie, à savoir la bonne définition, la bonne résolution, le travail qu'on fait en amont, qui est le travail de chromie. Et ce travail de chromie, ben, il passe par avoir un bon écran, ou un écran qui permette déjà de bien travailler, et une sonde de calibration. Alors là aussi, j'insiste, on n'est pas des... On n'est pas des gourous de la chose. Vous pouvez travailler sans. Vous pouvez travailler sans une dalle IPS. Vous pouvez travailler sans une sonde de calibration. C'est juste que quand vous allez recevoir votre cliché imprimé, en fonction de ce que vous avez à votre écran, en fonction de comment vous travaillez, quels sont vos réglages, vous pouvez avoir une différence de couleur. Et vous dire, bah, je comprends pas, moi, sur mon écran, ce fuchsia, il est vraiment fuchsia, j'ai composé mon travail de color grading autour. Quand je regarde mon impression, bah, je suis pas spécialement fuchsia, je suis quand même beaucoup plus violet ou beaucoup plus rose, et ça donne pas le même résultat. Ça vous permet juste de vous assurer que ce que vous voyez à l'écran, ça va être le plus proche possible de ce que vous allez avoir imprimé. Maintenant, là aussi, il faut parler de ce que vous pouvez... Là, on a vu un petit peu les bases et la techno. On a vu justement tout ce que vous pouvez faire de votre côté pour bien imprimer. Il y a aussi maintenant le travail qu'on peut faire chez l'imprimeur. Un imprimeur, alors, on a déjà actuellement enregistré l'épisode 33 sur les labos photo, et on en a discuté dans cet épisode, donc normalement les deux vont sortir ensemble pour vous. Accepter, choisir de travailler avec un professionnel, que ce soit un labo photo ou que ce soit un imprimeur, pour moi c'est une relation de confiance, et c'est une relation qui doit être durable. Si vous allez chez votre imprimeur parce que vous n'avez pas le choix, c'est le seul du coin, bah, vous pouvez le faire une ou deux fois. Après, idéalement, c'est quand même de trouver une personne avec qui vous pouvez discuter, avec qui vous pouvez avoir un échange, qui va vous conseiller sur les types de papier. Bien sûr, le papier va être ultra important. C'est aussi pour ça qu'on ne fait pas des impressions fine art chez soi, c'est qu'on ne va pas imprimer sur du Canson qu'on achète par rame de 300 feuilles. Un beau papier... Un papier Anmuleux, pour ne citer que cette marque, qui pour moi est, entre guillemets, peut-être le leader du marché sur la qualité d'impression. Je les salue, hein, j'ai manqué de bosser pour eux il y a quelques années, et pour moi c'est vraiment le top du top sur les types de papier. Un beau papier va forcément faciliter l'absorption de l'encre et va vous donner peut-être un meilleur résultat, évidemment vous donner un meilleur résultat qu'un papier médiocre. Et vous allez voir, quand vous allez rentrer dans cet univers-là, vous allez vous rendre compte que, en fonction de ce que vous voulez imprimer, et en fonction du résultat de texture que vous voulez avoir pour votre impression, il existe tout simplement différents types de papiers. Il y a des papiers qu'on va conseiller pour du noir et blanc, il y a des papiers qu'on va conseiller pour du noir et blanc peut-être un peu moins contrasté, il y a des papiers qu'on va conseiller pour de l'impression de fichiers vectoriels, donc là on n'est plus dans la photographie, mais on est dans l'impression d'art quand même, et il y a des papiers qu'on va conseiller tout simplement pour de l'impression couleur. On va retrouver des papiers avec Alors généralement, c'est des papiers qui sont 100% coton, avec peut-être un traitement chimique. On va trouver des papiers bio aussi, sans traitement chimique. Et naturellement, le type de papier que vous allez choisir et sur lequel votre imprimeur va vous conseiller va aussi, bien évidemment, modifier le résultat et donner une petite sensibilité en plus par rapport à votre image. Vous commencez à comprendre là où je veux en venir. Si vous avez pris le temps de faire une belle photo, de bien la travailler, de calibrer votre écran, de faire un beau développement, de bien choisir la définition, de bien choisir la résolution, entre guillemets, c'est pas pour amener votre fichier sur une borne de la FNAC et sortir récupérer un 10-15 dégueulasse. L'idée, à un moment, c'est de trouver face à vous un professionnel, et il en existe partout sur le territoire, partout dans les territoires, parce que NoFilter a la chance d'être aussi écouté à l'international avec dans des pays francophones. Je vous ferai pas l'affront jamais d'essayer d'enregistrer un épisode en anglais. Ce serait vraiment insultant pour nos amis anglophones. Un bon imprimeur, il y en a partout. Ce sont des professionnels qu'il faut choyer, ce sont des professionnels avec qui il faut prendre le temps de discuter, parce que comme on dit qu'une photo, c'est une prise de vue, un développement, une impression photo, donc de temps, une impression photo, ça va être ce que vous amenez à l'imprimeur et la manière dont votre imprimeur va traiter votre fichier et la manière dont vous allez discuter avec votre imprimeur pour savoir comment vous voulez travailler. À mon sens, et là je ne peux que citer les collègues de Paris Graphie dans le 11e arrondissement à Paris, même si je ne vis plus à Paris, je vous avouerai que je n'ai pas encore forcément cherché des imprimeurs qui travaillent de la sorte sur Marseille, puisque tout simplement... Paris Graphie m'envoie mes clichés et je sais que j'ai travaillé suffisamment avec eux en présentiel pour savoir comment ils fonctionnent en distanciel et je peux drop mes fichiers, ils m'envoient mes impressions et je sais déjà la qualité que je vais avoir. Un bon imprimeur, c'est quelqu'un qui doit vous conseiller, à mon sens, sur le type de papier que vous voulez, le type des papiers qui sont possibles pour réaliser le tirage que vous allez faire. Bien sûr, tout ce qu'on dit là vous permet aussi de faire des tirages 10-15 sur des bornes FNAC sans aucun souci. C'est juste que le papier photo de la FNAC, des choses comme ça va être sympa, mais peut-être qu'à un moment, si vous voulez aller au-delà du 10-15, il va falloir chercher des imprimeurs qui soient qualitatifs et qui ne soient pas des bornes automatiques. Voilà, c'est un petit peu toutes les informations qu'il vous faut pour parfaitement maîtriser l'art délicat, entre guillemets, de l'impression. Je vous la redonne, c'est vraiment les bases. Pour moi, la base, c'est la définition, la résolution, le rouge, vert, bleu, le RVB et le cyan, magenta, jaune, noir, et comprendre comment vous travaillez et ce que amène chacune de ces valeurs. La deuxième partie, ça va vraiment être la partie technique. Vraiment comment vous travaillez, sur quel environnement vous travaillez, est-ce que votre écran est bien calibré. Comme je vous disais, on peut même venir calibrer un écran qui n'est pas forcément de l'IPS, on aura peut-être un résultat moins fin, mais déjà la calibration de l'écran, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un très très gros step pour vous faire monter en qualité dans votre rendu photographique et notamment par rapport à l'impression. Et là, on parle du fait que vous soyez professionnel, que vous vendiez vos clichés ou que vous soyez amateur et que vous ayez de très très beaux clichés et que vous ayez juste envie d'en mettre partout dans votre salon ou d'en offrir à vos proches une sonde de calibration, ça vous permet de vous assurer que tout est bien sur la chromie. Et derrière, dans les parties qui relèvent plus de l'imprimeur, c'est effectivement trouver des personnes de confiance avec qui un dialogue est possible autour de la manière de travailler de ces personnes, quels traceurs ils utilisent, comment ils travaillent, quel type de papier, ça c'est très important. Un point qui est un petit peu délicat parfois à aborder avec les imprimeurs, certains imprimeurs vont accepter de vous faire des tests, certains imprimeurs ne vont pas accepter de vous faire des tests gratuits. Gratuit, j'entends, ça dépend du modèle économique, ça dépend de la manière de travailler. Dans le cadre d'une impression, si vous avez un doute, ça vaut toujours le coup de faire un test sur un petit format, un 10, 15, quelque chose. Oui, ça va être de l'argent que vous allez mettre en plus, mais si vous n'êtes pas certain du rendu que va vous donner la personne, si vous avez un petit doute, bien écoutez, il vaut mieux payer quelques euros et faire un petit tirage test pour voir, plutôt que partir tout de suite sur un très très grand tirage et que après, vous soyez dans une relation commercial avec ce prestataire qui veut dire bah non, vous n'avez pas voulu faire de test, moi je vais pas vous retirer, vous avez déjà me payé le tirage que j'ai fait et vous allez me repayer le prochain tirage, vous n'avez pas voulu faire de test, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, entre guillemets, c'est pas de ma faute et la personne n'aura pas forcément tort. Sur cette question des tests, ça dépend vraiment, entre guillemets, j'allais dire des écoles, ça dépend vraiment des professionnels, il y a des gens qui vont vous offrir des tests, il y a des gens qui vont pas vous offrir des tests. C'est une question, c'est à la discrétion de l'imprimeur, mais si vous avez un doute, sachez que c'est aussi, une solution qui existe. On arrive à la fin de cet épisode, hein. Je vous l'avais dit, c'est un épisode qui va être très très court, mais qui va être, très court pour moi, très court pour vous, mais qui va être beaucoup plus dense pour vous, pour ce qui relève de la lecture et des informations que je vais vous apporter. Vous allez pouvoir retrouver dans les liens du billet tout ce qu'on a évoqué, hein, c'est-à-dire un article sur la définition et la résolution, la formule de calcul, la feuille de calcul qui va vous permettre de comprendre pourquoi on travaille en 300 dpi et plus qu'en 254 dpi, et qui va aussi vous permettre soit d'aller du pixel au centimètre, soit d'aller du centimètre au pixel. Et pareil, je vais vous mettre un peu de lecture sur les différents types d'écrans et aussi sur les différents types de dalles. Vous savez que si vous avez des questions, on peut en discuter sur Twitter. J'y passe un petit peu de moins en moins à cause de ce qui est en train de devenir Twitter, mais pour autant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre. En complément peut-être de cet épisode, je vous invite à écouter l'épisode 17 qui est justement avec Parigraphie, qui est un épisode classique, c'est-à-dire un épisode long, où on aborde avec nos deux imprimeurs adorés ce qu'est Parigraphie, comment il fonctionne, tous les services qu'il propose, et même si vous n'allez pas forcément travailler avec Parigraphie, je pense que c'est un très bon épisode pour comprendre comment ce type de professionnel travaille, comment ce type de professionnel fonctionne et quels sont les services qu'ils peuvent vous amener. Eh bien écoutez, on arrive à la fin de l'épisode. Merci beaucoup de votre patience, hein, pour cette doublette épisode 32, épisode 33 qui arrive en même temps. L'épisode 34 aussi est enregistré, il faut que je le monte. Et pour ne rien vous cacher, dans deux semaines, on va enregistrer l'épisode 35. Je n'ai pas encore dit qui c'était, il va falloir attendre un petit peu, mais on se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures. Merci à vous, bonne fin de journée, bon courage, et surtout, pensez à imprimer vos photos. Allez, salut, c'était Gozer, c'était l'épisode 32 dédié sur le print. C'était un petit peu un sprint, mais c'est comme ça. Prenez soin de vous. Thank you.